Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats, d'opinions avec les auditeurs et l'info tous les jours. Bonjour Amandine, jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, le Gard, entre inquiétude et soulagement, la personne portée disparue a été retrouvée. Mais on attend de nouvelles précipitations cet après-midi. L'actualité, c'est aussi le jour J pour la vaccination obligatoire des soignants. 10 000 médecins ne le sont toujours pas. Et puis du foot, début très attendu du PSG en Ligue des Champions, c'est ce soir face à Bruges.
Et juste après le journal, évidemment, on échangera, on décryptera, on débattra, on reviendra sur les intempéries dans le Gard. L'alerte rouge a-t-elle été déclenchée trop tard? Et puis, je l'ai dit, 39% des jeunes ont peur d'avoir des enfants. Ce sera notre conversation, notre débat de 12h50.
Notre question du jour sur RTL.fr, climat, redoutez-vous justement une augmentation des catastrophes naturelles? Vous dites oui à 62%, non à 34%. La météo, c'est avec vous. Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
5 départements sont donc toujours en alerte.
Oui, toujours en alerte orage et pluie inondation. Ça concerne l'Hérault, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et le Gard, qui est en plus en vigilance orange cru. La situation reste orageuse des Pyrénées au nord-est cet après-midi. Des orages et des pluies plus fortes encore entre le Languedoc et le Jura. Et un temps plus sec sur le nord-ouest, mais toujours nuageux et humide. Plus sec et plus lumineux entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Le tout sous des températures en baisse de 20 à 23 au nord, de 23 à 30 au sud.
Merci beaucoup Peggy. À tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer, direction donc justement le Gard, et c'est la bonne nouvelle du jour. Je vous le disais, la personne dont on était sans nouvelles depuis hier après-midi a été retrouvée saine et sauve chez elle ce matin, à plusieurs kilomètres de l'endroit où sa disparition avait été signalée. Un soulagement pour les pompiers qui l'ont cherchée toute la nuit avec de gros moyens, des plongeurs, des chiens, mais aussi des drones. Le colonel Jacques Pagès dirige justement les opérations de secours.
Alors concernant cette disparition, les forces de gendarmerie, on a pu faire une levée de doute puisqu'ils ont réussi à prendre contact avec cette personne qui en fait réside sur une autre commune et se porte bien et n'a jamais eu de soucis avec la montée des eaux.
Il n'a même pas eu à se mettre, je dirais, en sécurité dans des arbres ou sur un point haut.
Non, pas du tout. Il est parti avant la montée des eaux, donc voilà, il n'y a pas eu de souci avec ça. À l'heure actuelle, on a fait toutes les levées de doute par rapport à des potentielles disparitions. On a réussi à recroiser avec les nettoyages qu'on a fait tout hier et les divers sauvetages avec les équipes de sauvetage en eau vive. Donc là, pour l'instant, plus aucune recherche concernant des personnes disparues. Et on est pour l'instant serein sur le bilan humain, par chance.
Jacques Pagès, le colonel Jacques Pagès qui dirige les opérations de secours dans le Gard, il était au micro RTL de Patrick Tégéraud. Le Gard qui est toujours ce midi en alerte orange, comme nous le disait Peggy, c'est le cas aussi de 4 autres départements, redoute en effet de nouvelles précipitations cet après-midi, une angoisse pour les habitants qui commencent tout juste à évaluer l'ampleur des dégâts. Illustration à Huchot avec vous, Étienne Baudu.
Oui, avec Kevin par exemple. Ce matin, il remonte la rue où il habite. Le bitume a été arraché, des gravats partout, des voitures retournées. Il est encore sous le choc.
Beaucoup de peur parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'échelle sur le toit parce que voilà, je ne savais pas si je devais monter avec ma fille de 2 mois sur le toit parce que l'eau a commencé à arriver aux genoux, ensuite au ventre. Les pompiers sont venus, donc on est parti, on a pris les animaux, on est parti, on est se réfugié à Clarensac. On a pris le strict minimum, on est parti.
Et lorsqu'il pousse la porte de sa maison, le locataire d'à côté a déjà épongé le sol et évacué la boue. Mais l'eau qui est montée à 50 cm a causé des dégâts irrémédiables. Prise électrique, frigo, meubles.
Tout est mort, là on va devoir chercher ma voiture qui s'est échouée tout au fond là-bas. Elle est foutue, complet.
Alors l'entraide et la solidarité peuvent se constater à chaque coin de rue. Les sapeurs-pompiers, eux aussi, sont là avec leurs camions et leurs lances à incendie. Jean-Pierre et 2 collègues sont à pied d'œuvre.
Et là, c'est la raclette, la tronçonneuse, le balai, la pelle. Et bon, la lance à incendie, bien sûr, pour évacuer le plus gros. Et après, on finit en raclette. Hein.
Alors ici, tout le monde lève les yeux au ciel. Un ciel gris et déjà quelques gouttes. Quelques gouttes seulement pour l'instant.
Étienne Baudu a eu chaud pour RTL.
L'alerte rouge a-t-elle été déclenchée trop tard? On en débat dans moins de 10 minutes avec Louis Baudin.
L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire pour les soignants. Ils sont encore 300 000 à ne pas l'être et parmi eux, 10 000 médecins. Ça représente 8% de tous les effectifs confondus à l'hôpital comme en libéral. Des médecins à Gatlandais, qui risquent désormais la radiation.
Oui, ça c'est vraiment la sanction ultime et les autorités de santé espèrent plutôt que les récalcitrants se vaccineront quand ils verront que les sanctions sont bien réelles. Car aujourd'hui, pour ces médecins non vaccinés, il y a trois étapes. D'abord, l'assurance maladie va suspendre leur remboursement et transmettre leur nom aux ARS. C'est la deuxième étape, les agences régionales de santé qui suspendent ces médecins. Dernière étape, l'ordre des médecins est informé de ces suspensions. Cette instance a affirmé ce matin qu'elle considère la non-vaccination comme une faute déontologique, donnant donc lieu à des commissions disciplinaires. Ces 10 000 médecins risquent donc un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercer et enfin la radiation.
Merci beaucoup Agathe. Agathe Landais du service santé d'RTL. Franck Hanson, vous êtes vous rendu à l'hôpital de Roubaix dans le Nord. Là-bas, plus de 95% du personnel est vacciné. Comment s'est passée cette première matinée ?
Eh bien, à l'entrée, seuls les visiteurs sont soumis au contrôle du pass sanitaire. Dans les services de l'hôpital, les derniers irréductibles ont été identifiés et retirés des plannings. En réanimation, où l'on a déjà payé un lourd tribut contre cette pandémie, Christophe Hart, cadre de santé, a fait ses comptes.
Aujourd'hui, le jour J, tout le monde est à son poste. Les irréductibles sont connus, savaient ce qui les attendait. En réanimation, tout le monde est vacciné. Nous avons juste un doute pour un agent qu'on essaie encore de contacter. Il y en a qui sont vaccinés à la dernière minute, oui.
Et les premières sanctions tombent après plusieurs entretiens, confirme Jacques Adamski, agent technique et délégué CGT.
Il y a déjà des lettres de suspension qui ont été données en main propre ce matin. On applique la loi, mais cette loi, elle est inique, quoi. Donc c'est vraiment brutal. Ça va se chiffrer en quelques dizaines, mais quand on est dans des services de soins où il y a déjà des problèmes, les dizaines en moins sont des dizaines qui sont reportées sur les autres.
Et parmi ces absents encore en réflexion, beaucoup de femmes enceintes ou d'autres toujours en congé.
À l'hôpital de Roubaix, le reportage de Franck Hanson pour RTL. C'est la conséquence directe de la hausse des prix. Le SMIC sera revalorisé dès le mois prochain, plus 35 euros brut par mois à partir du 1er octobre. Bonjour Martial Diou.
Bonjour.
Cette hausse, elle est mécanique mais exceptionnelle.
Oui, exceptionnelle puisque la dernière hausse de ce type remonte au 1er janvier 2011. À l'époque, l'inflation avait atteint 2,1%. Cette hausse est donc automatique parce que ça permet à ceux qui sont au SMIC de bénéficier de cet apport pour ne pas trop perdre en pouvoir d'achat, bien sûr. Cette fois, la hausse des prix constatée par l'INSEE est de 2,2% et ça se retrouve donc directement, bien sûr, dans le budget des familles modestes. D'abord, la facture énergie avec un prix du litre de gazole qui a progressé de plus de 20% sur un an. Mais il faut ajouter aussi plus 35% pour le gaz et des tarifs d'électricité qui grimpent également. Il y a une hausse sur les produits manufacturés, donc ça c'est tout ce qui est fabriqué, hein. Les voitures, les appareils électroménagers, les ordinateurs, on sait que ces produits sont plus chers parce qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs et donc une rareté qui fait grimper les prix. Puis enfin les denrées alimentaires comme les céréales qui entraînent une hausse des prix dans la grande distribution. Alors elle est sensible pour l'instant sur la viande, fruits et légumes, les produits frais, mais ce sera encore plus net dans quelques mois sur les produits transformés.
Martial Diou, chef du service économie de RTL. Et puis toujours à propos d'argent, si vous comptiez acheter une maison ou un appartement, attention, ça va devenir plus compliqué. Les règles changent en effet à partir du 1er janvier. Pierre Herbulot, on ne pourra plus emprunter sans apport.
Oui, il va 20 ans falloir avancer au moins 10% du prix du bien. Exemple, avec un 3 pièces de 60 mètres carrés dans le centre de Rouen, 205 000 euros pour l'acheter. Votre banquier vous demandera désormais d'avancer 20 500 euros, c'était déjà recommandé, c'est désormais la règle. Mais ce n'est pas la seule nouvelle contrainte. Le taux d'endettement est désormais limité, lui, à 35% maximum. Le taux d'endettement, c'est ce que représente le remboursement de votre crédit dans vos revenus. Le ratio, en quelque sorte, avec un crédit sur 25 ans, pour revenir sur l'appartement de Rouen, il vous coûtera environ 830 euros mensuels. Votre banquier, toujours lui, ne vous autorisera pas à l'acheter si vous gagnez moins de 2350 euros net par mois. En gros, ça veut dire qu'avec le même salaire, on peut emprunter un petit peu moins. Et puis impossible désormais d'allonger la durée de l'emprunt. Les remboursements sont limités à 25 ans maximum, des règles plus strictes décidées par le Haut Conseil à la stabilité financière pour limiter les risques de surendettement.
Et tout ça donc, on le rappelle, à partir du 1er janvier 2022. Merci à vous Pierre Herbulot. Du changement aussi du côté des forces de l'ordre. Gérald Darmanin a précisé ce matin sur RTL les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron, les nouvelles règles d'encadrement et de contrôle, notamment l'IGPN. La police des polices rendra désormais publiques ses enquêtes disciplinaires.
Tous les rapports désormais...
Disciplinaires.
Tous les rapports.
On va savoir du début à la fin comment
tous les rapports seront désormais publiés, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Comme
c'est
ça, chacun pourra le constater, puisqu'il y a beaucoup de fantasmes et qu'on n'a rien à cacher dans la police.
Gérald Darmanin avec Alba Ventura ce matin sur RTL. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Tous les rapports publiés, c'est une vraie révolution.
Oui, parce que jusqu'ici, ces rapports n'étaient rendus publics qu'au compte-gouttes. Gérald Darmanin, vous venez de l'entendre, promet de systématiser cette publication. Alors attention, cela ne concernera pas l'ensemble des fautes présumées commises par des policiers en service, mais tout ce qui touche au rapport avec la population. manifestation pour faire simple les soupçons de violence policière. Prenons un exemple. La séquence des Gilets jaunes a donné lieu à 69 enquêtes disciplinaires de l'IGPN. Ce sont les synthèses de toutes ces investigations qui seraient désormais rendues accessibles au public. On ne sait pas si ce sera rétroactif. Avec cette autre limite, somme toute logique, ces rapports seront anonymisés, bien sûr, c'est ce que promet le ministère de l'Intérieur. Mais déjà, l'annonce de Gérald Darmanin fait réagir de hauts responsables policiers. Ils s'interrogent sur la faisabilité juridique du projet. Selon certains, la loi ne permet pas en l'état de publier ces rapports. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur n'a donné aucune échéance.
Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL.
Le foot et après match nul de Lille hier soir.
C'est votre musique préférée?
Ah ben oui, bien sûr. Et puis cette question qui revient chaque année à la même époque, est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions ?
Le PSG qui retrouve la compétition ce soir, compétition européenne, puisque les Parisiens affrontent Bruges. Bonjour Philippe Sanfouche, vous êtes sur place pour RTL. Des Parisiens grands favoris cette année, il faut dire qu'il y a de quoi, puisqu'ils aligneront ce soir sur la pelouse 3 des 4 meilleurs joueurs du monde.
Oui, en tout cas supposé comme tel, et ce sera la grande première de ce trio Messi, Neymar, Mbappé. Imaginez le casse-tête pour l'entraîneur belge Philippe Clément. Le club Bruges était déjà dans le groupe du PSG, du Real Madrid il y a 2 ans, mais ce soir, la tâche s'annonce encore plus compliquée.
C'est clair que c'est encore un plus haut niveau, mais c'est vraiment intéressant maintenant pour tous les joueurs, parce que c'est dans tous les moments que tout le monde a rêvé quand il était jeune, de jouer contre les meilleurs joueur du monde et de prouver toi-même.
Le PSG et son attaque de feu qui vont devoir trouver maintenant les fameux automatismes, la complémentarité. Une addition de stars ne fait pas une équipe. Lionel Messi l'avait lui-même évoqué à son arrivée. L'exemple de l'équipe de France à l'Euro en est aussi la plus fraîche illustration. Chaque passe, chaque mouvement sera décortiqué ce soir. C'est souvent dès le premier match, les premières occasions que l'on sent ou pas, si les connexions vont faire des étincelles.
Et Philippe Sanfourche depuis Bruges pour RTL. Bruges PSG, ce sera bien sûr à suivre en direct ce soir sur RTL. RTL Foot, je vous le rappelle, c'est dès 20h45.
Les intempéries dans le Gard, l'alerte rouge a-t-elle été déclenchée trop tard? On est avec Louis Baudin dans une seconde.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Pluie, vent, grêle, la montée des eaux a été soudaine sur l'autoroute A9.
C'est vraiment monté très très vite. La voiture a commencé à soulever, à partir. On est sorti par les fenêtres parce qu'on ne pouvait plus voir les portes. On a vraiment eu peur, ouais.
La grosse frayeur des automobilistes hier sur l'autoroute A9. 24 heures plus tard, cette question, aurait-on pu éviter ça? L'alerte météo a-t-elle été déclenchée suffisamment tôt? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous à distance. Alors, le Gard a été placé en alerte rouge. J'ai regardé l'horaire, l'heure de la dépêche de l'agence France Presse à 11h50 hier. L'autoroute A9 était déjà sous les eaux. Même chose pour les trains, en tout cas les voies de chemin de fer. Est-ce que ça a été trop tardif ?
Ah ben oui, de toute façon, cet épisode montre encore les limites de la prévision et de ce que l'on sait faire aujourd'hui. La vigilance orange à l'échelle du département ou des départements, parce qu'il y avait l'Hérault et le Gard en vigilance orange depuis 24 heures, ça c'était parfaitement vu. On avait bien compris qu'on risquait d'avoir des orages violents sur ces départements, même si on n'avait pas la configuration optimale pour avoir un véritable épisode Cévenol, mais on savait qu'on pouvait avoir des quantités importantes, donc il y avait cette vigilance orange à l'échelle du département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la précision et le savoir encore pour être plus précis à l'intérieur d'un département, pour dire que ce sera plutôt Montpellier, Nîmes ou encore le littoral. Ça, on ne sait pas encore le faire. Et puis, évidemment, quand on passe à la phase ultime qui est la vigilance rouge, eh bien là, c'est vrai qu'on a vu, mais trop tard évidemment, que les intensités dépassaient le cadre de la vigilance orange, d'où pendant quelques heures à peine, on a eu ce passage en rouge. Mais c'est vrai que c'était tardif.
J'ai le sentiment, Louis Baudin, que depuis de nombreuses semaines, la météo est plus difficile à prévoir. Est-ce que c'est une réalité ?
Oui, c'est une réalité parce que nous avons eu ce qu'on appelle un été instable. C'est-à-dire qu'on avait, alors pour entrer un peu dans la technique, de l'air un peu froid qui stationnait sur la France et puis de l'air chaud à proximité du sol. Et cette différence entre les deux nous donnait cet air qui était particulièrement changeant, d'où la difficulté pour faire de bonnes prévisions localement à très court terme et puis également à long terme. Au-delà de 3-4 jours, la fiabilité a été mise à mal assez souvent.
C'est ce genre d'épisode-là, des quantités d'eau records qui sont difficiles à prévoir ?
Alors, Non, les grosses quantités, les vigilances orange, maintenant, elles sont assez justement prévues. En revanche, à l'intérieur de cette vigilance, dire est-ce que les pluies vont s'accumuler sur ce qu'on appelle un bassin versant plus abondamment, ou est-ce que ça va être juste à la limite? Est-ce qu'un orage, par exemple, va tomber sur deux versants et du coup, là, l'intensité va être divisée par deux, ou au contraire sur la même zone? Et dans ce cas-là, eh bien, là, on peut avoir très localement et de manière imprévisible les quantités qu'on a pu voir hier, ou c'est très local, hein. La portion d'autoroute qui a été fermée ou le village qui a été touché à l'échelle du département, ça ne représente pas grand-chose, mais évidemment, très localement, les conséquences sont dramatiques.
Louis, aujourd'hui, quand il y a une catastrophe naturelle de ce type, immédiatement, on pense dérèglement climatique. Et certains, d'ailleurs, disons-le, instrumentalisent ces catastrophes naturelles. Est-ce que vous diriez que ce qui s'est passé dans le Gard est lié au dérèglement climatique ?
Bah écoutez, je viens de relire justement précisément le dernier rapport du GIEC. Eh bien non, pour l'instant, on ne peut pas dire formellement et scientifiquement que cela est dû au réchauffement climatique. Il n'y a pas de signal, comme on dit, donné par la modélisation de ce réchauffement, qui lui est indéniable, avec pour conséquence des épisodes méditerranéens qui soient à la fois plus intenses et plus nombreux. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus anticiper. C'est-à-dire que, notamment, et moi je pense que les conséquences, elles sont autant dues à notre irresponsabilité sur l'aménagement local. C'est-à-dire que quand on regarde une image satellite d'il y a 50 ans et une image satellite d'aujourd'hui sur tout le littoral méditerranéen, on voit bien qu'il y a de moins en moins de zones humides, pour ne pas dire que par endroit il n'y en a plus du tout, que certaines constructions comme les voies ferrées, comme l'autoroute A9 sont construites en travers des écoulements naturels. Donc ça ne peut qu'amplifier les conséquences d'un phénomène météorologique à intensité égale par rapport à il y a 30 ou 40 ans.
Un tout dernier mot, Louis Baudin, on a quand même l'impression que les phénomènes météo violents se multiplient. Il y a le Gard cette semaine, Agen la semaine dernière, le Var la semaine d'avant. Ils sont plus fréquents, plus violents, ou j'allais vous dire, on en parle tout simplement plus?
Alors, il y a tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, on en parle beaucoup plus, que évidemment aujourd'hui, l'urbanisation eh bien, concerne beaucoup plus de personnes. On est plus nombreux également, c'est-à-dire qu'un même phénomène météorologique, à même intensité, va toucher beaucoup plus de monde, avec donc des conséquences plus importantes, qu'elles soient économiques ou parfois, malheureusement, pour des personnes. Mais si on regarde bien statistiquement depuis 50 ans, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup plus de phénomènes. Je dirais même qu'au début du XXe siècle, on a eu des phénomènes beaucoup plus graves, avec des quantités de pluie beaucoup plus importantes. Je pense aux Pyrénées-Atlantiques, au Tarn par exemple, où on avait dans les années 1910 des ponts qui avaient été embarqués. 14 ponts sur le Tarn avaient été emportés au cours d'un épisode Cévenol. Donc vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui.
C'est intéressant effectivement de vous entendre et effectivement ce qui peut remettre peut-être l'église au milieu du village. Merci Louis Baudin.
Merci.
Vraiment merci pour ces précisions. La pause et nous revenons avec le deuxième débat du jour. 39% des jeunes ont peur d'avoir des enfants et notamment les jeunes entre 16 et 25 ans. C'est une enquête dans 10 pays dont la France. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50.fr. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Dans la famille Le Balleur, il y a Martin, le papa, 33 ans. Marie, la maman, 32 ans. Puis Paul, 8 ans. Ombline, 7 ans. Charles, 6 ans. Marguerite, 4 ans. Et le petit dernier, Jean, 5 mois.
Des familles de 5 enfants comme celle-ci, on en verra peut-être plus dans les années qui viennent. 39% des jeunes disent en effet avoir peur d'avoir des enfants. Le chiffre nous a interpellés et c'est donc le deuxième débat d'RTL Midi, résultat d'une enquête très sérieuse qui a été publiée par la revue scientifique Lancet Planetary Health et relayée par le journal Le Monde ici en France. Les chercheurs ont interrogé, écoutez, pas moins de 10 000 personnes, toutes entre 16 et 25 ans, dans 10 pays, dont la France et les États-Unis. Et bilan donc, fonder une famille leur fait peur. Bonjour Chloé Chaudet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Ces jeunes, j'imagine que vous les comprenez. Vous avez, vous, récemment publié un ouvrage qui s'appelle « J'ai décidé de ne pas être mère » aux éditions L'Iconoclaste. Vous avez, vous, 36 ans, donc un peu plus que la tranche d'âge interrogée. Mais vous les comprenez ?
Oui, tout à fait. Je les comprends et je les côtoie puisque je suis enseignante chercheuse, donc ça correspond à peu près à la génération que je croise tous les jours dans le cadre de mes cours. Et oui, effectivement, je pense qu'il y a véritablement une éco-anxiété, une anxiété environnementale d'un nouveau type qui se développe de plus en plus depuis au moins 5-6 ans et qui peut effectivement contribuer à une certaine crainte quant à l'avenir de nos sociétés et donc influencer le désir de parentalité.
Mais est-ce qu'elle est exagérée, cette crainte? Est-ce qu'elle est justifiée?
Oui, alors c'est vrai qu'on a pu parfois m'objecter que l'histoire humaine est parcourue hein, de sinistres, de guerres, de catastrophes, mais l'ampleur hein, des bouleversements environnementaux auxquels on est confronté quasiment tous les jours, hein, par les médias mais pas seulement, mais le discours hein, des scientifiques à ce sujet, contribue tout de même à fonder cette inquiétude. Hein,
oui, mais on a un exemple très intéressant avec ce qui s'est passé dans le Gard. Je demandais tout à l'heure à Louis Baudin, est-ce qu'il y a un rapport entre ces catastrophes naturelles et le dérèglement climatique. Et il me disait non, au contraire, au XXe siècle, il y avait encore plus d'incidents de ce type. Il n'empêche, dans l'opinion publique, ce qui se passe dans le Gard est assimilé à un dérèglement climatique.
Alors, si vous voulez, je pense que cette inquiétude, elle est moins liée à une réflexion écologique, écologiste, au sens scientifique strict du terme. Elle s'inscrit davantage dans une forme d'inquiétude qui se généralise et que la crise là, du Covid n'a pas contribué à calmer, puisque c'est vrai que la plupart de ces jeunes, hein, que j'ai aussi interrogés parce que je les voyais régulièrement face à moi en cours, me disaient qu'ils ne se voyaient pas avoir des enfants confinés. Donc, si vous voulez, disons que ces discours, ces réflexions qui s'inscrivent dans différents débats hein, sur les corrélations entre les catastrophes naturelles et les changements environnementaux, nourrissent de manière partielle une anxiété quant à l'avenir de nos sociétés. Et ce désir ou non-désir de parentalité, hein, selon les études les plus récentes sur le sujet, est extrêmement varié. Disons que cette inquiétude environnementale rejoint tant d'autres raisons qui construisent une crainte, hein, des raisons également d'ordre économique hein, quant à l'avenir de notre société. Hein, le chômage des jeunes est une réalité hein, et n'est pas en train de diminuer. Donc si vous voulez, alors à l'échelle européenne, hein, pas juste française, c'est pas une corrélation si vous voulez qui est fortement fondée sur une réflexion scientifique objective.
Chloé Chaudet, on dit 39% donc des jeunes qui ont peur d'avoir des enfants. Il y en a 56%, toujours dans cette même enquête, qui estiment carrément que l'humanité est condamnée. Quand on a 20 ans, ça peut sembler terrifiant de se dire que l'humanité est condamnée, non? On a perdu Chloé Chaudet.
Oui, donc si vous voulez, je pense qu'il faut aussi mettre en perspective ce sondage qui est fondé sur une population planétaire de jeunes. Et j'avais été frappée dans ce contexte-là par le témoignage d'une jeune Philippine qui expliquait qu'effectivement, cette angoisse était d'autant plus marquée que les catastrophes naturelles se déchaînaient sur ses proches hein, qui étaient éparpillés dans un certain rayon justement autour des Philippines et qui avaient subi divers crues, inondations, etc. Donc quand tous les jours, ce qui se passe également en Haïti, hein, là actuellement, je suis confrontée à des étudiants qui n'arrivent même plus à accéder à des livres, qui n'arrivent même plus à accéder à de la nourriture. Donc si vous voulez, cette crainte quant à un avenir qui se referme, il n'est pas juste européen, je pense qu'il faut vraiment l'envisager à l'échelle planétaire. Et c'est ce que fait ce sondage, ce qui est assez nouveau, je trouve.
Exactement, et c'est pour ça qu'on a voulu vous écouter. C'est passionnant en tout cas de vous écouter, et il y aura beaucoup de réactions.
On rappelle votre livre ?
Bien sûr.
J'ai décidé de ne pas être mère, c'est aux éditions L'Iconoclaste, Chloé Chaudet donc.
Et on va interroger les jeunes, les 16-25 ans, peut-être y a-t-il également davantage d'individualisme que jadis, on hésite à s'engager. Et le mariage, l'amour, c'est un engagement, chère Amandine, à tout de suite.
RTL Midi.